Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Benjamin Duhamel.
RMC BFM TV, bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
On va bien sûr parler retraite, inflation, mais d'abord un an de guerre en Ukraine et vous avez surpris, hein, il faut le dire, en reconnaissant dans les colonnes de l'opinion, je cite, une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. Naïveté collective, c'est surtout votre naïveté, non, celle de Marine Le Pen, celle du Rassemblement National.
Oh, ce serait nous faire un faux procès que de réduire ainsi. Je pense qu'il y a une naïveté de toute la classe politique en réalité à l'égard des ambitions et des intentions de Vladimir Poutine. Je vous rappelle que Emmanuel Macron lui-même, chef de l'État, avait reçu dès son élection au château de Versailles le président Poutine
qui était président
l'avait
de la
reçu
République,
sur son lieu de vacances. Mais vous avez raison de le rappeler. Je vous rappelle que la France était notamment le premier pays étranger à investir en Russie et que plus largement l'Union européenne avait remis sa dépendance énergétique entre les mains de la Russie. Donc je pense qu'il y avait effectivement une forme de naïveté collective à l'égard de ses ambitions.
Surtout la vôtre quand on regarde Marine Le Pen qui se déplace à Moscou en 2017, qui parle de son admiration pour Vladimir Poutine en 2011, qui dit que non, il n'y a pas d'invasion en Crimée. Enfin, pardon, mais c'est que vous vous êtes trompé,
Emmanuel
en fait.
Macron...
C'est une sorte de façon d'essayer de mouiller tout le monde alors que c'est vous qui avez été naïf.
Emmanuel Macron ne s'est-il pas rendu à Moscou?
Mais quand il était président
n'a-t-il
de la République,
pas reçu,
c'est pas la même chose que quand on est dans l'opposition.
Vladimir, n'a-t-il pas reçu Marine Le Pen aspire à être présidente de la République? En tout cas, dans ces deux dernières élections présidentielles, c'était dans ce cadre-là qu'elle a souhaité dialoguer avec la Russie. Moi, j'ai souhaité rappeler une chose très claire dans cette tribune. D'abord, quelque chose qui relève de l'évidence, c'est que nous sommes aujourd'hui à un an du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et j'ai voulu rappeler de manière très claire, et nous l'avions condamné à l'époque sans ambiguïté, qu'il y a dans cette affaire un État agresseur, la Russie, un pays agressé, l'Ukraine. Que nous avons aujourd'hui, et je pense que c'est là le rôle de la France, un rôle de paix et un rôle d'équilibre. Nous avons le devoir d'éviter un engrenage dans ce conflit.
Et donc, vous vous êtes trompé. Quand vous disiez qu'il n'y avait pas eu d'annexion en Crimée, quand Marine Le Pen parlait de l'admiration pour Vladimir Poutine, c'est une sorte d'aveu d'erreur.
Je pense que le Vladimir Poutine de 2022 n'était pas le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans. Mm. Et si bien d'ailleurs que la France a entretenu pendant très longtemps, et notamment au travers de la diplomatie sous Jacques Chirac, qui a exprimé à plusieurs reprises son amitié à l'égard de Vladimir Poutine, des liens qui ne sont pas les mêmes que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement clair, je pense que, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons condamné cette agression, c'est que on ne peut pas tolérer que la loi du plus fort supplante le droit international. Alors, et une victoire de la Russie, et je le dis de manière très claire, très sereine et très posément, une victoire de la Russie de cette façon-là en Ukraine aurait exactement le même effet dévastateur sur le droit international que ne l'a eu l'invasion de l'Irak par les Américains en 2003.
On va essayer de poser deux questions très concrètes. Si, comme vous le dites, vous n'êtes plus naïf vis-à-vis de la Russie de Poutine, qu'est-ce que fait encore Thierry Mariani, député européen du RN, qui, je cite, maintient que les deux parties ont provoqué la guerre et que les crimes de guerre sont des deux côtés. Comment peut-on dire on n'est pas naïf vis-à-vis de Poutine et garder Thierry Mariani au RN?
Monsieur Duhamel, Thierry Mariani a une affection et une histoire particulière avec la Russie. Il a été le président du dialogue franco-russe qui a été créé par Jacques Chirac en 2004. Il a été député des Français de l'étranger pour l'UMP, pour le parti Nicolas Sarkozy.
Ça justifie de dire
Je vais vous répondre. Je suis en désaccord avec ces propos. Je pense que la Russie a créé un trouble très important. La Russie a violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine et on ne peut accepter, et d'autant plus lorsque nous sommes souverainistes et patriotes, qu'un État viole la souveraineté d'un autre État. C'est la position que nous avons tenue.
Vous acceptez
c'est
qu'il soit
la position,
ici et qu'il puisse dire ce genre de choses.
Le Rassemblement National n'est pas une chapelle, ça n'est pas une secte et on peut avoir des points de vue différents. Moi, je vous donne notre point de vue et je vous donne le point de vue de Marine Le Pen qui, dès le début de ce conflit, a condamné sans la moindre ambiguïté l'agression de l'Ukraine. Ukraine par la Russie.
Donc Thierry Mariani peut continuer à aller sur les plateaux et considérer que les crimes de guerre, c'est des deux côtés, pas de problème.
Mais écoutez, on a le droit d'avoir des débats au sein d'un mouvement politique, on a le droit d'avoir des désaccords. Nous sommes en tout cas d'accord sur le fait que l'issue de ce conflit ne sera pas une issue militaire et qu'il faudra à un moment donné, et c'est l'objet d'ailleurs de cette lettre ouverte aux Français qu'a publié Marine Le Pen, cet appel à une conférence internationale pour la paix, je crois que c'est là le rôle de la France, que de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour négocier. Viendra le temps, je pense qu'il y a deux principes à poser. Le premier principe, c'est celui que viendra le temps de la discussion et qu'il faudra à un moment donné dialoguer et que pour qu'il y ait la paix, il faut évidemment que la Russie comprenne qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine et qu'elle retire ses troupes. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas accepter que la souveraineté d'un État soit
violée. Une dernière question précise sur ce sujet. Vous dites précisément dans l'opinion être favorable à l'envoi d'armes qui peuvent permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et de protéger ses frontières. Sauf les missiles longue portée, ça pour vous c'est non, pas d'avions et pas de chars. Donc les canons César, les Ukrainiens disent que c'est très utile, on est d'accord, c'est bon les canons César.
Les canons César, on est à la limite, mais comprenez bien.
Non, juste très précis.
Oui, mais je vais être très précis, mais laissez-moi finir ma phrase.
Est-ce qu'on peut les envoyer ?
Laissez-moi finir ma phrase. D'abord, les canons César, c'était de la com. C'est des canons César qui avaient été vendus au Danemark, que le Danemark a accepté de céder à l'Ukraine. Donc ne mélangeons pas tout, je pense que les canons César, c'est un point très particulier. Je vous dis une chose, je pense que la France, et c'est la position que nous avons tenue durant toute la campagne présidentielle, doit aider matériellement l'Ukraine, avec du matériel défensif. Le matériel défensif, c'est quoi ? Ce sont des missiles solaires, ce sont des missiles anti-aériens, c'est tout ce qui permet à l'Ukraine de se défendre.
Est-ce que les canons César peuvent continuer à être envoyés en
Ukraine ?
Je pense
que les canons César, nous sommes à la limite.
Mais la limite, c'est-à-dire une chose. Qu'on n'en voit pas.
Je dis une chose très claire. La France doit fixer des lignes rouges. Moi, je suis favorable. Et c'est la position que nous avons tenue durant toute la campagne présidentielle à ce qu'on donne à l'Ukraine. On ne va pas faire du matériel de défense. Là, on n'est pas des spécialistes tous les deux.
Non, mais c'est une question très précise.
Du matériel qui permet. Mais alors,
vous dites
on va
c'est
être très
limite,
précis.
C'est oui ou est-ce
je
c'est
pense
non.
que.
Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non
Non, je pense
César.
Que les canons
d'accord,
César, on est à la limite.
D'accord.
On est à la limite.
Donc,
de la même manière que les missiles longue portée qui pourraient faire prendre le risque d'atteindre des villes russes comme Rostov ou comme Sébastopol, c'est-à-dire des villes de 400 000, d'un million d'habitants, entraînerait l'Europe tout entière dans un engrenage que je crois une très grande majorité des Français et des Européens ne souhaitent pas. Lorsque le président de la République met une ligne rouge sur les avions de combat, je pense qu'il a raison de mettre cette ligne rouge. Et je pense que le rôle de la France, encore une fois, c'est un rôle de paix et d'équilibre. Un rôle de paix dans les négociations et un rôle d'équilibre de fixer des lignes rouges dans le matériel de défense qui est donné à l'Ukraine.
Avant de passer aux retraites, un tout dernier mot. On comprend que Marine Le Pen n'a pas l'air d'être totalement ravie que vous ayez dénoncé cette naïveté collective, que vous parliez d'international. Il y a deux lignes au RN ou vous êtes totalement aligné ?
Il y a pas
elle, elle pense la même chose
non,
que vous.
Non, oui, Marine Le Pen a dit à plusieurs reprises, encore une fois, je veux dire, on peut ne pas exprimer des choses de la même façon, avec les mêmes mots.
À la même sensibilité.
Mais sur le fond, nous disons la même chose. Et Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises. Poutine d'aujourd'hui n'est pas Poutine d'il y a 5 ans. Maintenant, oui, je pense qu'il y a eu dans la classe politique française, qu'il y a eu peut-être dans notre camp aussi une forme de naïveté
dans
à l'égard
camp, donc,
des intentions.
Aussi.
Mais aussi, bien sûr, moi je suis pas obtus à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. Et je vous rappelle, puisqu'on est un an du conflit, que le président ukrainien une semaine avant le début de l'invasion russe en Ukraine, ne croyait pas à la capacité de Vladimir Poutine d'envahir la Russie. Donc maintenant, il faut se prémunir du risque d'engrenage, il faut que la France porte cette conférence internationale pour la paix et que la Russie comprenne qu'elle doit maintenant retirer ses troupes et qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la stabilité du monde.
On vous a entendu sur la réforme des retraites. Elle arrive au Sénat donc demain en commission. Le gouvernement s'est dit, notamment hier par la voix d'Olivier Dussopt, prêt à des améliorations, des modifications. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce passage au Sénat ? Rappelons que vous avez pas de sénateur à un Rassemblement National, donc au moins ça facilite les choses.
Je pense que d'abord ce texte est devenu un bazar indescriptible. Il n'y a plus un seul Français qui nous écoute ce matin, qui comprend ce qui va l'attendre dans les prochaines années avec ce texte de loi. Le gouvernement d'abord a menti. Il a menti sur les 1200 euros de retraite garantie à l'ensemble des personnes qui arrivaient à la retraite. On s'est aperçu que c'était 1200 euros pour
carrière complète.
Donc ils ont menti, pardonnez-moi. Le 15 janvier, Olivier Dussopt nous parlait de 400 000 bénéficiaires. Un mois plus tard, le 15 février, on est à 200 000. Aujourd'hui, on est à peine autour de 10 000, d'après les chiffres qui ont été rapportés par la direction de la Sécurité sociale.
Il y a les mensonges.
À un député du Parti socialiste. Deuxièmement, on nous a dit, on n'ira pas au-delà de 44 annuités. On s'est aperçu que c'était faux. Et que, 43 annuités, pardonnez-moi. Et que, en réalité, il y a toute une tranche d'âge qui vont encore être concernées par ces 44 annuités. Moi, j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir confisqué le débat. Parce que
Donc
NUPES.
Vous espérez qu'au Sénat, ça se passe parce que mieux, à minima,
Mais c'est l'heure de vérité pour LR. En réalité, on a vu dans ce texte de loi qui va être très douloureux pour les Français et qu'une très large majorité du pays rejette, et ils ont raison de la rejeter, les LR ont fait le choix non pas de se vendre, mais de s'offrir, de se donner à Emmanuel Macron. Or, je pense que beaucoup d'électeurs de LR notamment, eh bien, ne souhaitent pas cette réforme des retraites.
Mais donc, sauf que là, le Sénat LR s'apprête à soutenir le gouvernement.
C'est un moment de vérité. Voilà. Et moi, quand j'entends aujourd'hui tous les LR nous parler de courage sur ce texte de loi, mais est-ce que le courage, c'est de demander à une caissière, à un un boulanger ou un électricien de travailler jusqu'à 64 ans. Et les Français qui nous écoutent ce matin, et ils l'ont bien compris, doivent bien retenir que cette réforme, c'est la baisse des pensions. Parce que en décalant l'âge de départ à la retraite, et c'est la raison pour laquelle j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir empêché le débat sur le fond de la réforme, beaucoup de Français vont devoir partir avec une décote. Il y a 6% des Français qui partaient avec une décote il y a 10 ans. Il y en a 13% aujourd'hui, et ce chiffre va évidemment augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, qui font des métiers difficiles, qui font des métiers de force, qui ont le corps usé et qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. Quant au bénéfice économique de la réforme, tout le monde a bien compris qu'il n'y aura évidemment pas le bénéfice escompté et qu'on est là dans la gestion d'une pénurie que le gouvernement a lui-même organisée.
Un point très précis qui sera abordé au Sénat parce que les sénateurs, les Républicains veulent aller plus vite, la question des régimes spéciaux. Bruno Retailleau dit notamment il faut aller plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire le fait que seuls les nouveaux entrants à la RATP ou dans d'autres régimes spéciaux seraient concernés par la réforme. J'ai bien regardé, j'ai absolument rien compris à ce que pense, que propose le Rassemblement National.
Pourtant, c'est extrêmement simple.
Ah bah, les régimes expliqués, honnêtement.
Les régimes spéciaux. Sûr, hein. Bah, écoutez, c'est pas grave. Merci de me permettre de préciser si ça n'a pas été suffisamment compris. Les régimes spéciaux, c'est de la chirurgie. D'accord? Il y a, s'agissant des régimes spéciaux, on parle de 7 milliards d'euros de dépenses sur les 360 milliards que nous coûtent les retraites et que coûtent les retraites à l'État. Donc, on n'est pas là dans un phénomène, majeur qui, non, je crois, peut-être en un peu plus de passion que ça en a l'air.
Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, il y a un sujet de justice autour de la question
des régimes spéciaux. Je pense que c'est de la chirurgie. Je pense qu'il y a des régimes spéciaux qui, ne se, justifient plus. Et il y a d'autres, par exemple, celui de la RATP ne se justifie plus et c'est la raison pour laquelle nous défendons une clause du grand-père à compter de 2035. Pourquoi à compter de 2035?
Mais attendez, vous dites ça et pourquoi en même temps, vous avez voté à l'Assemblée nationale contre la suppression des régimes spéciaux.
Pourquoi à compter de 2035? Pour une raison très simple, c'est que il y a aujourd'hui à la RATP des difficultés de recrutement. Et là où j'en veux encore une fois au gouvernement, c'est de considérer ces régimes spéciaux, de les mettre tous dans le même sac et de les considérer avec brutalité. Il y a aujourd'hui une grande partie des offres d'emploi à la RATP. Je crois que sur les 1300 ou 1400 offres d'emploi l'an dernier à la RATP, il y en a eu que 900 qui ont été pourvues. On sait qu'il y a 20% du réseau d'Île-de-France Mobilité qui subit des impéritie, qui subit, je dis que pour l'instant, on ne peut pas retirer les seuls avantages qu'offre une profession, alors même que on a déjà du mal à recruter dans ce secteur. En revanche, effectivement, à terme, il faudra remettre de la justice dans ce système, et c'est la raison pour laquelle
on a défendu la suppression des régimes spéciaux à l'Assemblée nationale.
On a défendu, pas sur celui-ci, Laure Lavalette, qui est député du Rassemblement national, a déposé un amendement pour celui-ci. Le régime de la Banque de France, par exemple, c'est un régime qui ne se justifie plus. En revanche, vous avez des régimes comme le clerc de notaire, qui sont des régimes qui sont très largement excédentaires et qui s'autogèrent parfaitement. Il y a d'autres secteurs, comme ceux de l'industrie gazière, par exemple, où aujourd'hui, on voit qu'on a énormément de mal à recruter dans ce secteur, dans
donc
le secteur
quand on a du mal à recruter,
EDF,
on doit donner des dérogations en permettant aux gens de partir beaucoup plus tôt.
Exactement.
C'est logique.
Je dis que
c'est juste.
Je ne suis pas un idéologue, je suis très pragmatique. Et quand on a des professions aujourd'hui où on a du mal à recruter, à les supprimer, les quelques avantages qu'offrent ces professions, ces régimes spécifiques, eh bien, je pense que c'est une erreur et que c'est un non-sens. Sur les policiers, par exemple.
C'est un
régime spécifique parce qu'on sait qu'un policier part aujourd'hui, grosso modo, avant les 60 ans. On fait le choix de faire cotiser plus longtemps des policiers alors qu'on sait que c'est une profession dans laquelle on a énormément de mal à recruter. Donc, encore une fois, c'est pas un phénomène économique majeur dans la retraite. On a effectivement dans ce débat sur les retraites un problème de recettes. Et on a un problème de recettes. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de cotisants. Donc, les leviers les plus essentiels, c'est l'emploi, c'est de faire le patriotisme économique, c'est d'engager la réindustrialisation et c'est de soutenir une politique nataliste. Si on poursuit les courbes de la natalité, en 2035, à partir de 2035, il y aura dans notre société beaucoup plus de décès que de naissances. Alors que la France n'a jamais été aussi peuplée, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Donc je pense qu'il faut libérer les taux financiers sur les familles. Et en ce sens, je pense que les erreurs qu'a faites François Hollande en 2014, notamment d'abaisser le quotient familial ou de réformer l'université des allocations familiales, a été une erreur très importante sur laquelle nous reviendrons au pouvoir.
Le prochain rendez-vous que fixe l'intersyndicale, c'est le 7 mars. France à l'arrêt, et vous vous êtes dit opposé au blocage. Donc en fait, vous êtes quoi? C'est l'allié objectif du gouvernement?
Je n'ai pas ma carte à la France insoumise, ne confondez pas les deux. Encore une fois, je soutiens les mobilisations populaires, nous soutenons les manifestations, il y a beaucoup de nos électeurs, nos adhérents, nos militants, nos élus qui ont participé à ces cortèges.
Oui, sauf que là, vous dites, le 7 mars, je ne veux pas qu'il y ait de blocage, pas de France à l'arrêt.
Sur le blocage, d'abord, s'il y a des blocages, ce sera de la responsabilité du gouvernement. permettez-moi de le rappeler, parce que c'est le gouvernement qui est aujourd'hui en train d'imposer au peuple français de gouverner contre le peuple français qui, à près de 78%, rejette ce texte de loi. Donc s'il y a des blocages, d'abord, un, c'est de la responsabilité du gouvernement.
Mais vous ne les soutenez
deuxièmement,
pas, ces blocages.
Deuxièmement, j'ai des réserves sur les blocages, parce que je pense que les blocages, ça pénalise les Français les plus modestes. Et que les Français les plus modestes auraient à cet effet la double peine, c'est-à-dire et la retraite à 64 ans, et les blocages, et ça va pénaliser les infirmières libérales qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Ça va pénaliser les Français qui doivent emmener leurs enfants à l'école et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ça va pénaliser les policiers, les pompiers. Donc je dis une chose très simple. La solution à tous les blocages, c'est le référendum. Quand on a un texte de loi...
Il y a eu une motion référendaire, ça a été rejeté. Ce que dit la NUPES, c'est ce que dit
l'intersyndicale. De loi, et bien le président de la République doit maintenant entendre cela. Les Français sont contre
ça. Ce que dit la NUPES et ce que dit l'intersyndicale, c'est en l'état, si on ne va pas plus loin, si on ne monte pas en puissance, le texte passera. Donc en fait, vous êtes fataliste, le texte va passer s'il ne faut pas de blocage.
Non, il y aura un vote à l'Assemblée nationale. Il y aura un vote au Parlement.
Il y a un vote au Parlement et de toute façon, le gouvernement a
le texte n'a pas encore été voté. Je vous rappelle que le gouvernement, et c'est là où encore une fois, la NUPES a facilité le travail du gouvernement en faisant de l'obstruction parlementaire,
c'est
en empêchant
vous avez pas beaucoup entendu,
tout débat, en empêchant parce que vous nous avez pas écouté. Et c'est vrai que quand on hurle, quand on aboie, quand on traite des ministres d'assassins, quand on joue au foot avec la tête d'un ministre et qu'on se met en photo sur les réseaux sociaux comme le font les députés de la NUPES, ça c'est sûr qu'on nous entend et ça c'est sûr que ça fait du bruit. Mais ce bruit-là, il sert le gouvernement. Et je peux vous dire que Emmanuel Macron, il est très content du spectacle qui a été offert par la NUPES. Parce que, un, ça a empêché le débat sur le fond. Deux, ça a empêché le vote de l'article 7 qui prévoit le décalage de la retraite à 64 ans. Alors même, et j'en viens à mon argument, que le gouvernement subissait revers sur revers, et notamment le rejet de l'index senior et de l'article 2. Donc, rien n'est fait. Et je dis aux Français... Ce texte de loi n'est pas une fatalité. N'ayez pas peur. Nous allons nous battre encore une fois au Parlement. Les Français qui souhaitent manifester pacifiquement doivent continuer à le faire. Et encore une fois, je pense que s'il y a des blocages, c'est de la responsabilité du gouvernement et que la solution, c'est le référendum.
Une parenthèse rapidement, Olivier Dussopt qui dit dans les colonnes du Monde que Marine Le Pen a sans doute été plus républicaine que la France Insoumise dans la séquence à l'Assemblée. Vous êtes content de ce quitus qu'il vous donne là de républicanisme ou de...
Bah, il est en tout cas un peu plus objectif que vous. Il est en tout cas un peu plus objectif que vous, parce que tous les sondages qui ont été faits, encore une fois, les sondages, ça permet de, c'est pas une science exacte, mais ça permet de mesurer l'opinion. Les Français disent quoi? Ils disent que dans le sondage IFOP, dans le sondage qui est sorti dans le JDD la semaine dernière, que Marine Le Pen et les députés du Rassemblement National ont été l'opposition la plus sérieuse et la plus crédible à ce texte de loi à l'Assemblée nationale. Et oui. Nous considérons les gens qui siègent sur les bancs de la majorité présidentielle ne sont pas des ennemis, mais que ce sont des adversaires politiques. Mmh. Et le comportement...
Vous vous sentez plus proche d'Olivier Dussopt que de la France Insoumise ?
Non, absolument pas. Je pense que nous avons d'un côté une violence sociale qui est exprimée par le gouvernement contre les Français, et de l'autre, une violence démocratique qui est exprimée par la NUPES et qu'ils expriment en toutes circonstances. Et je dis que entre ces deux violences-là, nous incarnons la voix du sérieux, la voix de la raison, et je dis aux Français que si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous garantirons une retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans parce qu'ils ont les métiers les plus difficiles, et que faire peser une réforme des retraites sur les gens qui ont les métiers les plus durs dans notre société, c'est d'une brutalité absolument inouïe.
Un mot sur l'inflation, Jordan Bardella. Notamment, ça continue de progresser beaucoup dans l'alimentaire. Emmanuel Macron, ce samedi, a appelé les distributeurs à réduire leurs marges. Il a raison de mettre la pression de cette façon-là sur les distributeurs.
Mais il parle, mais quelles mesures ont été prises ? Rien. Je veux dire, monsieur le maire, le ministre de l'économie, a enterré le panier alimentation
même si
de
le gouvernement
d'Olivier
dit
Grégoire.
Qu'il y a encore bon,
on a devant nous un mars qui va être un mars rouge. Voilà,
un mois de mars dit, qui va mars rouge, vous ne
très
croyez pas.
Difficile. On sait que l'inflation va augmenter au mois de mars pour une raison très simple, c'est que les négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs se terminent le 28 février et qu'il y aura à partir du mois de mars et sur les mois qui viennent une inflation très importante. Le mur de l'inflation, il arrive. Et c'est la responsabilité du gouvernement que ne pas laisser des millions et des millions de gens dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Trois grandes mesures. La première, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'énergie. Parce que l'énergie et le carburant, se chauffer ou se déplacer, c'est un bien de première nécessité. Et que quand il y a un carburant à 2 euros et qu'il y a 60% de taxes sur l'essence, on peut agir immédiatement pour rendre aux Français les fruits de leur travail. Deuxièmement, prendre un panier de 100 produits de première nécessité, le riz, les pâtes, les couches pour les enfants, les produits énergétiques et les sortir totalement de TVA. L'Espagne l'a fait il y a quelques semaines et ça permet concrètement immédiatement, tout de suite, de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et troisièmement, il faut augmenter les salaires. Parce que tout augmente dans notre société, sauf les salaires. Moi, je discute avec beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent, on aimerait augmenter les salaires dans notre entreprise. On aimerait faire un geste pour accompagner nos salariés dans cette période difficile, mais ça n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a défendu avec l'ensemble de nos députés à l'Assemblée une mesure qui est une mesure gagnant-gagnant qu'on passe avec les chefs d'entreprise. Vous augmentez de 10% les salaires de tous vos salariés, ces 10% sont exonérés de charges. Et ça, c'est une mesure concrète pour accompagner les Français et pour leur redonner un peu d'oxygène.
Un tout dernier mot, Jordan Bardella, sur l'affaire Palmade, une décision sera rendue tout à l'heure sur l'éventuel placement en détention provisoire de l'humoriste. Vous qui ne cessez de dénoncer une justice laxiste, est-ce que vous considérez que la place de Pierre Palmade est en prison, si bien sûr son état de santé le permet ?
Non mais moi, je ne mets pas à la place de la justice et de la procédure de justice. Ce drame a ému et a choqué tout le monde. Et moi, je n'ai aucune tolérance pour des gens qui prennent le volant après avoir consommé de la drogue ou après avoir consommé des produits stupéfiants.
Donc vous demandez une sévérité de la justice en l'espèce.
Je pense que c'est la moindre des choses.
Merci Jordan Bardella.
Merci à vous.
8h53, RMC, BFM TV.